depuis des années à développer cette collaboration. J'aimerais ça, François, simplement que tu nous dises quel est le rôle que tu vois, quel apport ils ont, puisque tu étais dans le ministère pastoral pendant des années avant d'être directeur à Sembec. Quel est le rôle de CCF pour nous au Québec?
Eh bien, leur slogan, c'est « Restaurer Christ au counseling et le counseling à l'église locale ». Donc, c'est un ministère de counseling biblique qui place Christ au centre de la solution et qui, en même temps, a développé toute une expertise pour travailler avec l'être humain dans tout son ensemble et sa complexité. Mais l'Évangile fait partie de leur culture du début à la fin. Et non seulement cela, ils veulent que le processus de transformation que l'on va vivre avec Christ se fasse dans le contexte de l'Église locale. Et je crois que bibliquement, c'est ce qu'on retrouve. C'est comme ça que l'apôtre Paul a écrit aux églises. Et puis, on veut entrer dans cette lignée-là. Et avec des hommes doués comme Ed Welch, c'est vraiment une dynamique incroyable. Et on veut vraiment travailler avec eux.
C'est super. Alors, je vous présente François. C'est mon ami. C'est un de mes très grands amis, François Turcotte, très proche. Lorsque je pars dans mes retraites de prière deux fois par année, tout ça, puis que je vais me placer sous le bistouri de Dieu, bien, je le fais aussi sous le bistouri de François et Stéphane Gagné. Et donc, je suis vraiment content de l'avoir ici pour qu'il apporte le message de la parole ce matin. François est directeur exécutif, directeur académique à Sembec. Sembec, c'est le séminaire de formation de notre association, séminaire baptiste évangélique du Québec, où déjà notre frère Alexandre est engagé là-bas, déjà en train de servir, tout ça. Mais c'est vraiment un séminaire qui œuvre à former des ouvriers pour le Québec. Ils sortent de leur réunion annuelle sur la vision pour les prochaines années. Et dans leur décompte, ils ont dit pour les prochaines années, ça nous prend 300 nouveaux pasteurs pour répondre aux besoins et avancer juste dans notre famille d'église, d'accord? Pour avancer avec l'Évangile. Alors, c'est un ministère énorme, super important, super stratégique. Priez pour Sembec, s'il vous plaît. Priez pour que Dieu suscite de l'Église ici plein d'autres serviteurs en formation qui vont avoir cet appel d'aller dans l'œuvre. Je suis vraiment content que tu viennes nous conduire dans la parole, François. Que Dieu nous dirige.
Merci. Alors, ce matin, on va être dans le livre de Genèse et dans le récit de Joseph. Mais juste avant, je voulais poursuivre aussi, peut-être ceux qui ont été bénis par la conférence avec Bob Allums, il y a environ un an de cela. Avec Ed Welch, on va continuer dans cette même lignée. Et puis, c'est tellement des journées riches d'être exposé à des hommes qui ont été doués de Dieu. Et puis, je vous encourage donc de considérer la conférence dans vos agendas. Et de considérer dans la prière aussi... Yannick disait que je travaillais à Sembec. On a fait nos calculs et si on veut penser remplacer juste dans notre association d'Église Baptiste le nombre d'ouvriers qui va être nécessaire à remplacer dans les 10 prochaines années, eh bien, il faut en former 150 nouveaux. Alors, on a le défi de former 150 nouveaux ouvriers. Alors, il faut que les classes soient bien plus nombreuses que 150 pour y arriver. Alors, si vous voulez prier, parce que le besoin d'ouvriers est grand, et peut-être Dieu vous appelle ici, allez voir un de vos pasteurs, dire « Dieu, travaille mon cœur, je serais prêt à considérer le ministère sous un angle ou un autre. » Allez-y, c'est pas le nombre de postes qui manque. Alors, c'est vraiment un besoin et je vous encourage de le considérer. Imaginez que toute votre jeunesse, vous avez été détesté par vos frères et sœurs. Imaginez que même vos frères et sœurs complotent pour vous faire mourir. Et vous jettent dans une espèce de puits vide. Vous criez, époumonez pour dire « Sortez-moi de là! » Ils sont en haut, restent silencieux à votre égard. Et là, avec un peu de compassion, ils vous épargnent la vie, mais ils vous vendent comme esclave dans un pays étranger où vous allez arriver dans une nouvelle langue, une nouvelle culture, et vous êtes dans ce monde-là comme esclaves. Sans plus, vous demeurez obéissant à Dieu et vous êtes respectueux envers votre patron, mais injustement, vous êtes accusé, puis on vous jette et on vous propulse en prison. Prison pour laquelle vous allez être pendant 2 ans. On peut à peine s'imaginer la vie d'un tel personnage. Mais c'est la vie de Joseph. C'est son histoire. Et on va chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu a à nous apprendre et à nous instruire dans un tel contexte de début qui semble catastrophique. Ça nous ramène à essayer de comprendre notre raison d'être, pourquoi on vit sur Terre. Et dans notre culture actuellement, ce qui est très valorisé, c'est de vivre pour soi-même. De vivre pour accomplir des rêves. C'est mis de l'avant, c'est présenté dans les médias. Lorsque quelqu'un accomplit ses rêves, il a fait quelque chose que la société nous dit de grand. Pensons par exemple à la Québécoise Mylène Paquette qui a choisi de traverser l'océan à la rame, seule, de réaliser un défi personnel, de surmonter ses peurs, de faire 5000 kilomètres en 129 jours, avec des vagues qui dépassaient 10 mètres de haut dans une petite capsule de plastique. Vive pour ses rêves. Pour d'autres, vivre pour une cause humanitaire les interpelle bien plus. Ils veulent soulager les besoins sociaux qui sont criants autour d'eux. Mais en réalité, cette raison de vivre s'approche beaucoup de l'autre parce que la cause pour laquelle on donne sa vie devient ce qui donne le sens à la vie de cette personne-là. C'est quand même, dans un certain sens, aussi une vie qui est vécue pour soi, avec un angle différent. Est-ce que ces objectifs sont suffisamment grands pour nos vies? J'aimerais qu'on considère ça ce matin. C'est un peu la question que Yann Martel souligne dans son livre « Histoire de Pie », où il y a différentes façons de raconter sa vie. Et il soulève un peu la question avec justesse, qu'est-ce qui est suffisamment grand? Le récit de Joseph dans la Genèse, dans le premier livre de la Bible, un récit qui couvre environ 14 chapitres, met en relief de manière assez évidente que Dieu est impliqué dans la vie de cet homme. Il va lui-même, au fur et à mesure que le temps avance, comprendre cette réalité que Dieu fait partie de l'équation dans sa vie. Il est appelé par Dieu, malgré qu'il vient d'une famille dysfonctionnelle, où il a été plus aimé que les autres et que ça l'a créé une espèce de tension incroyable. Dieu l'a choisi. Dieu choisit souvent, d'ailleurs, ceux qui sont pas toujours droits. Il y en a des croches. Il y en a des mal-aimés, comme ici. Dieu a choisi des femmes stériles pour la généalogie qui mènerait à Jésus-Christ. Toutes sortes de situations qui nous amènent, je pense, à croire que c'est lui qui agit et non pas nous qui sommes les héros de l'histoire. Joseph reçoit des rêves qui lui indiquent qu'un jour il va régner sur ses frères, ce qui augmente le feu dans le poêle pour la haine qu'il va recevoir de ses frères et sœurs qui veulent tout faire pour un peu prouver que ce qu'il dit Joseph, là, ça n'a pas de sens. On va te tuer. Tu vas voir que tes rêves, c'est de la foutaise. Mais Joseph commence dès ce moment-là à être protégé par Dieu. Sa vie est protégée parce qu'un des frères dit « Hey, répandons pas de sang qui va retomber sur nous. » Puis il est vendu, puis il est vendu comme esclave, mais il tombe exactement comme esclave dans la maison de Potiphar, qui était le chef des gardes du pharaon, pas n'importe quel endroit. Quelle vérité pour nous aujourd'hui devrait-elle être la plus étonnante? Est-ce qu'un Dieu à l'extérieur de nous, souverain sur nos vies humaines, ou celle que Dieu ne détruit pas sa création? Parce qu'aujourd'hui, culturellement, on pourrait penser qu'un Dieu à l'extérieur de nous, souverain dans nos vies, est la vérité qui est un peu repoussante. Mais il y en a une qui est bien plus étonnante quand on va comprendre le récit biblique ce matin. Dieu ne détruit pas. Pour ceux qui suivent le sport ce matin, quatre défaites de suite pour le Canadien. C'était le coach du Canadien, il te passe une idée par la tête. Si j'avais tel joueur au lieu de tel joueur, t'aurais le goût de changer d'équipe. T'es le coach du Canadien, le sport national, t'as quatre défaites en ligne, les caméras commencent à tourner sur toi, puis là, t'aurais le goût de changer des affaires. T'aurais le goût de l'éliminer, ton équipe. T'aimerais ça avoir une équipe unie qui compte des buts puis qui avance. Mais Dieu a aussi été dans un scénario avec les humains qui n'ont pas tellement fait ce que était l'intention originale du Créateur, mais bien au contraire, au lieu de nous détruire, de nous enlever de l'équation, il cherche à nous restaurer. Et la vie de Joseph nous aide à comprendre ce plan. Joseph sera 13 ans dans l'épreuve. Il a 17 ans quand il est vendu. Je ne sais pas s'il y a des ados ce matin, mais c'est à l'âge de 17 ans que Joseph va être propulsé dans une caravane vers l'inconnu comme esclave. Cette souffrance et ses 13 ans, son périple avant de devenir co-gérant de l'Égypte va être un périple assez souffrant, mais il va apprendre plein de choses dans ces années-là. Un apprentissage qui va le conduire vers la capacité non seulement de pardonner, mais de comprendre et de savoir aussi que sa vie est entre les mains d'un Dieu qui est parfait, un Dieu qui est bon, un Dieu merveilleux et qui a un plan pour sa vie. Imaginez, sa vie est gardée, il tombe dans un endroit très spécifique. Il va être capable d'interpréter des rêves pour deux prisonniers qui arrivent directement de Pharaon. Même s'il est oublié dans un timing parfait, il va réinterpréter le rêve, mais cette fois-ci du Pharaon. C'est tellement évident que Dieu est impliqué dans la vie de Joseph que dans le récit, on lit à maintes reprises, l'Éternel était avec lui. Même le narrateur de l'histoire le répète. On dirait comme pour nous aider à lire cette histoire-là d'une manière différente. On aurait tendance à première lecture de penser que dans cette histoire-là, le héros, c'est Joseph. Mais le narrateur, lui, nous dit et nous répète dans son histoire, dans le récit de la vie de Joseph, l'Éternel était avec lui. C'est plutôt ce Dieu, ce héros lui-même qui se révèle dans ce récit. Pensez-y, malgré son obéissance à Potiphar, malgré son obéissance à Dieu, tout ce qu'il réussit à récolter, c'est la prison. Sur une base uniquement de sa vie, ça fait pas de sens. Mais sur la base d'un plan, d'un Dieu qui est impliqué dans sa vie, il y a énormément de choses qui prennent une direction vraiment intéressante. Alors, cette période dans la vie de Joseph, entre la vente comme esclave et celle où il va régner en Égypte, va l'amener à tirer des conclusions, je dirais, théologiques, pratiques. Parfois, on pense que ce qui est théologique n'est pas pratique. Moi, je pense que ce qui est théologique est pratique. Ce sont des conclusions que Joseph va venir à voir et on va le lire ensemble dans quelques instants. Il va comprendre que sa vie s'insère dans un programme selon Dieu. Ses épreuves vont permettre de construire et de rétablir un agenda relié à des promesses que Dieu a faite bien avant lui à ses grands-pères et ses arrière-grands-pères. Vivre pour nous-mêmes peut paraître bien petit quand on considère ce qu'on va lire. Après avoir validé, à un moment donné, vous savez, la famine s'installe et telle qui était prévue, les frères de Joseph, manquant de nourriture, vont se rendre en Égypte. Et qui vont-ils être confrontés à? Leurs frères. Ils ne savent pas encore au début. Et lui les questionne et les bardasse. Il va les tester. Jusqu'au moment où il va se dévoiler à eux au bon moment, quand il va être sûr de où sont rendus ses frères aujourd'hui, il va se dévoiler. Imaginez les 10 devant lui parce qu'un était resté avec leur père. Joseph, mon ami, il devait être petit. Parce que la dernière fois que tu l'as vu, c'était pas des au revoir très agréables, tu sais. Et là, le gars, il a du pouvoir en plus. Tout de suite, Joseph cherche à les rassurer. On va lire dans Genèse chapitre 45, verset 4, pour ceux qui ont une Bible. Sinon, je crois que d'autres peuvent lire à l'écran. Verset 4. Joseph dit à ses frères, « Je vous en prie. » Approchez-vous de moi. Alors ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a de la famine dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y en aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et vous permettre de survivre par une grande délivrance. Avant même que vous m'envoyiez ici, Dieu m'a envoyé avant vous. Est-ce que ça, c'est pas une leçon théologique pratique? Dieu m'a envoyé. C'est comme si Joseph leur dit, mes souffrances des 13 dernières années ont servi à vous servir, vous qui m'avez trahi. Pour ceux qui connaissent les trajectoires que l'on trouve dans la Bible qui mènent à la vie, au ministère de Christ. Ici, on a un exemple de trajectoire extraordinaire. Mes souffrances des 13 dernières années ont servi à vous servir, vous qui m'avez trahi. La rédemption a toujours un prix. Joseph a souffert et la trace de ce prix pour aider un peuple qui est le sien. Dieu m'a envoyé ici, avant vous. Et même Dieu rassure Joseph lorsque toute sa famille va venir rejoindre les frères. Même le père pour qui les promesses ont été faites en Canaan, dans un autre pays, aller en Égypte est probablement comme la fin de Dieu qui devient incapable de résoudre et d'accomplir ses promesses. Donc Dieu apparaît aussi à Jacob et dit « Vas-y en Égypte, ça fait partie de la manière que j'ai choisi d'accomplir pleinement et souverainement toutes les promesses que j'ai faites. » Et même un peu plus tard, dans le chapitre 50, Joseph va revenir à ses frères, parce que ses frères sont de nouveau dans la crainte, et va les rassurer de nouveau, puis il va dire encore une fois, « Moi, j'ai souffert pour que vous puissiez être sauvés. » Dieu est vraiment là. Le récit de Joseph dans la Genèse est pour nous prouver, à nous aujourd'hui, que Dieu est vraiment là. Imagine 2 secondes que Joseph ne voit pas la main de Dieu dans le récit de sa vie. Imagine pendant 2 secondes que Joseph n'a pas arrivé à cette conclusion théologique-là dans sa vie. Et là, quand il revoit ses frères, qu'est-ce qu'il a le goût de faire? Leur faire payer. Il va agir d'une manière complètement différente de celle qu'il a agi parce que sa compréhension de la vie aurait été complètement différente. Ses choix et sa manière d'agir auraient été tellement différents. Mais Joseph sert le bien ultime de son peuple pour obtenir leur délivrance, en plus d'accomplir toutes les promesses qui viennent de Dieu et qui viennent ici en synthèse s'accomplir. Et ça, c'est le modèle et le patron déposé dès la Genèse qui va être présent tout au long de la Bible. Un patron qui met en relief la beauté inexplicable de celui qui a volontairement sacrifié sa vie pour la délivrance de son peuple et qui vient de toutes les nations. On comprend bien que Jésus lui-même, comme un type de Joseph, comme quelqu'un qui vient plus grand que Joseph, va venir nous arracher à bien plus qu'une famine temporaire, mais à un jugement qui est éternel, pour nous offrir bien plus que les biens de l'Égypte, mais les richesses de la gloire de Dieu. Le héros n'est pas Joseph. Le héros est le Dieu de Joseph, qui se dévoile dans ce récit et donne le patron et le modèle que l'on va retrouver dans les Écritures. Le récit de Joseph illustre à travers un début dramatique qui semble ruiner tout espoir de rétablir quoi que ce soit de la part de Dieu. Mais Dieu est au courant. Dieu est là. Dieu est présent. Le récit de Joseph pointe donc vers ce plus grand héros que lui, qui allait venir pour sauver son peuple au complet. Les deux ont été vendus par les siens. Les deux se sont fait arracher leur robe. Mais dans le cas de Joseph, son sang n'a pas coulé. Ses frères ont résisté à ce que le sang de leur frère coule. Mais dans le cas de Dieu le Père, dans son plan rédempteur, lui n'a pas hésité à ce que le sang de son propre fils coule pour que toi et moi puissions éviter un jugement et une mort certaine. Il s'est donné en rançon pour que tu puisses être gâté en abondance, comme les 11 frères l'ont été. Ce récit, le narrateur veut nous amener dans une direction très précise. L'Éternel était avec lui. Et l'Éternel a été aussi avec Jésus. Et on lit dans le prophète Ésaïe qu'il a plu à Dieu de donner son Fils pour que toi et moi, on puisse être rachetés. Que devons-nous conclure de cette histoire, de cet individu qui vit une telle vie? Qu'est-ce que le lecteur devrait recevoir? On devrait d'abord comprendre que Dieu sait souverainement comment et vers quoi il dirige ta vie. Ta vie est entre les mains d'un Dieu et cette association devient un outil puissant pour un projet qui dépasse le cadre de tes propres vies personnelles seules. Vous savez, dans mon cas même, je m'identifie à Joseph. Je viens aussi d'une famille dysfonctionnelle où tout n'a pas fonctionné comme prévu. Avoir un père alcoolique, être enfant unique, apprendre à être centré sur soi puis égoïste à travers tout ça. Vivre dans la crainte à chaque soir que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais ça, c'est les individus que Dieu choisit. Peu importe d'où on vient, d'une famille dysfonctionnelle ou non, d'une vie dysfonctionnelle ou non, d'éléments de votre vie qui peut-être a créé de grandes déceptions, Notre manière d'agir reflète où est notre cœur et où sont nos yeux. Tel Joseph, dans votre récit, Dieu est-il souverain? Et l'Esprit vous conduit-il à agir en sachant que Dieu a un plan pour votre vie et qu'il est au contrôle des circonstances qui se passent, passées, présentes et futures de votre vie? Pensez à vos réactions quand quelque chose se passe. Avons-nous développé cet apprentissage théologique, pratique, qui nous amène, j'espère ce matin, dans vos cœurs, peut-être soit à confesser d'avoir oublié cette vérité. Votre Père vous attend. Il est prêt à vous recevoir. Tel des enfants, on peut trébucher et se reprendre parce que Dieu est là. Et à croire que Dieu est souverain dans vos vies. Et il a un plan. Il a un plan pour vous qui dépasse ce que vos projets personnels pourraient tenter de construire par vous-même. L'obéissance n'implique pas toujours la facilité et le succès. On le voit dans la vie de Joseph. Et Joseph n'est pas comme une espèce de fable moderne qui finit très bien, qui finit en héros. Il ne finit pas de retour en Canaan, mais il meurt là-bas en Égypte, en exil. Mais il va demander que ses os, à sa mort, puissent être ramenés en Canaan. Pourquoi? Et c'est ce que le livre des Hébreux souligne de Joseph. Parce qu'il avait la foi que le plan que Dieu a annoncé d'un récit qui allait se passer en Canaan, il y a eu foi, même s'il est en Égypte, et que rien pointe dans cette direction-là. Imagine, tu es à l'église, tu obéis fidèlement, et là, vling, quelqu'un tombe dessus d'une manière complètement maladroite. Quel plan vois-tu devant toi? Est-ce que tu vois un Dieu souverain qui est en train de créer une circonstance pour tirer sa gloire? Ou tu vois un frère méchant qui ne devrait même pas être dans ton église? Joseph a appris que Dieu était là et que Dieu avait un plan pour lui, pour le rachat de son peuple. Dieu peut même contrôler des dirigeants, dictateurs, pour accomplir son plan. Il peut frayer son chemin en toi et pour toi et à travers toi, peu importe les époques, peu importe les régimes politiques, peu importe les situations. Et croire cela nous amène à agir d'une manière complètement différente. Mais, comme par Jésus-Christ, nous qui sommes aujourd'hui l'Église, qui sommes la continuité de l'œuvre que Christ a commencée sur terre il y a 2000 ans, l'Église, c'est la prolongation de si Christ était lui-même ici parmi nous. Vous êtes l'image de Dieu sur terre, vous êtes les représentants, vous êtes le temple de Dieu. Eh bien, à l'image que l'on vient de comprendre de Joseph qui a servi, qui a souffert pour le salut d'un autre. J'aime pas l'idée qu'on l'on dit qu'un croyant doit évangéliser. Je trouve que ça sonne comme une tâche, comme tu dois faire la vaisselle, tu sais. Il me semble que ça sonne comme ça. Mais j'aime plutôt croire qu'on ne vit pas pour nous-mêmes. On vit pour la démonstration par nos actes envers ceux qui nous entourent en vue de leur révéler un vrai héros qui a un plan de rachat pour prendre ceux qui sont meurtri et dysfonctionnel et qui ont besoin d'être transformés et les amener à la perfection pour la gloire de celui qui est derrière tout ce plan-là. Et vous et moi sommes ici en mission. Avec cette optique-là, Dieu a un plan plus grand que je pourrais avoir pour ma propre vie. Je suis en mission, je suis appelé à donner ma vie, à souffrir pour qu'un plus grand nombre puisse goûter à cette gloire qui nous attend dans les cieux. Dans Romains chapitre 5, verset 2, l'apôtre Paul dit que ce qui est son espérance, c'est de recevoir et de bénéficier de la gloire de Dieu pour l'éternité. C'est son espérance. C'est son espérance de pouvoir partager avec Dieu cette gloire qui dépasse toute notre compréhension, qui est indescriptible, tellement ça va être extraordinaire de baigner dans un milieu d'affection, d'amour, de douceur et de compassion extrême et à l'infini. Si telle était l'espérance de Paul, qu'elle puisse l'être du plus grand nombre sur la rive sud de Montréal. Et que vous puissiez voir qu'il y a une option qui se présente à vous, qui peut impliquer de la souffrance et des sacrifices, mais qui permet, lorsqu'on est des instruments dans les mains de ce Dieu, de construire un plan de rédemption pour que le plus grand nombre soit devant le trône de Dieu un jour, et de dire gloire et gloire. Ça change les choses de savoir que Dieu est souverain dans nos vies. J'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur, si je vis pour moi-même, atteindre mes rêves peut me sembler très grand. Mais tu nous tends quelque chose de bien mieux ce matin. De plus grand encore. Seigneur, puisses-tu venir dans mes actions cette semaine, m'amener à comprendre que je suis dans un plan beaucoup plus grand, d'un Dieu souverain qui veut prendre ma vie comme un instrument afin d'être missionnaire pour le rachat d'un plus grand nombre. Telle a été toi ta mission, Seigneur Jésus, de vivre pour le Père, d'étendre tes mains et de donner ta vie. C'était tellement plus glorieux et grand que de vivre pour tes propres rêves. Seigneur, bouleverse nos vies. Que tout ce qui a été fait dans le passé nous aide à voir que ce sont des instruments pour notre mission aujourd'hui, dans un plan que Dieu seul sait, mais qui est grandiose. Seigneur, aide-nous à te voir. Seigneur, fais comme pour Élisée qui était avec son serviteur et lui voyait l'armée tout autour du campement. Et t'as enlevé, t'as déchiré le voile un instant pour qu'il voie que tu étais là. Et que tu étais souverain. Que dans nos vies, ce voile tombe aussi et qu'on te voit agir et qu'on se réjouisse en pleine espérance de la gloire à venir. On t'en prie au nom de Jésus. Amen.